Chapitre 3. Une chevauchée agréable. Autour des boudards, des fermes, des pâturages et des oliveraies couvraient la plupart des terres. Mais on trouvait aussi un grand nombre de petites forêts qui s'étendaient sur quelques lieues. Et bien que le paysage fût plus plat qu'au sud, dans les collines de Rhiannon, il y avait quand même pas mal de buttes assez hautes pour projeter de longues ombres sur les plaines. Tout compte fait, un cadre suffisant pour dissimuler le plus souvent au regard ce qui aurait pu passer pour une étrange caravane de marchands. Une cinquantaine de cavaliers, autant de gens avançant à pied, des bêtes de bât. De plus, les champions n'avaient pas leurs égaux pour trouver de discrètes pistes à travers bois. À part quelques chèvres qui broutaient dans les collines, Elaine ne vit rien qui pût signaler une présence humaine. Dans cet été qui n'en finissait pas, même les plantes et les arbres friands de chaleur commençaient à se ratatiner. Pourtant, en d'autres circonstances, la fille héritière se serait volontiers contentée d'admirer le paysage, si différent de ce qu'elle avait vu sur l'autre rive du fleuve Eldar qu'on aurait pu en être à un bon millier de lieues. Ici, les collines, très étranges, semblaient avoir été à demi écrasées par des mains géantes. Des multitudes d'oiseaux aux couleurs vives s'envolaient sur le passage de la colonne. Une bonne dizaine d'espèces de rossignols, gemmes vivantes aux ailes floues tant elles battaient vite, faisant du vol stationnaire autour des chevaux. À certains endroits, de grosses lianes pendaient sur le chemin, et les arbres, de chaque côté, ne portaient en guise de feuillage qu'une sorte de toupet végétal se dressant sur leur cime. Elaine vit aussi des plantes qui évoquaient irrésistiblement des plumeaux de la taille d'un homme. Trompées par le climat, plusieurs végétaux luttaient pour se doter d'une parure estivale, certains réussissant à produire de belles fleurs rouges ou jaunes larges comme les deux mains de la jeune femme et dont le parfum capiteux lui montait à la tête. Elle vit de gros rochers qui avait tout l'air d'avoir été jadis les doigts de pied de statues géantes. Cela dit, on imaginait mal pourquoi quelqu'un qui se donnait la peine de sculpter des statues de cette taille ne les munissait pas de chaussures. À un moment, l'expédition passa au milieu d'une forêt minérale composée de fûts de colonnes pour la plupart renversés. Sans respect pour ces vestiges, les fermiers du coin venaient à l'évidence se servir quand ils avaient besoin de pierres. L'un dans l'autre, un voyage agréable, malgré la poussière que soulevaient les sabots des chevaux. Bien entendu, la chaleur n'atteignait pas une Aes Sedai, et il n'y avait pas tant de mouches que ça. Les fugitives avaient réussi à semer les rejetés, et elles ne couraient plus aucun risque d'être rattrapées. Bref, tout aurait pu être parfait si, pour inaugurer le cycle de désagréments, Avienda avait appris que son message, au sujet des ennemis qui arrivent quand on s'y attend le moins, n'avait pas été transmis. Au début, Elaine avait sauté sur ce prétexte pour ne plus parler de Rand. Pas à cause d'un regain de jalousie, cependant, mais simplement parce qu'elle enviait Layel d'avoir partagé de tels moments avec Rand. Aucune jalousie, donc, mais de l'envie. Pour être franche, elle aurait préféré le contraire. Ensuite, la fille héritière s'était mise à écouter vraiment ce que disait son amie d'un ton monocorde et bas, et elle avait senti tous ses poils se hérisser sur sa nuque.
« Tu ne peux pas faire ça !»
s'exclama-t-elle, en faisant approcher Lyon de la monture d'Avienda. En réalité, il semblait que Layel n'aurait aucun mal à tabasser Corinne, ou à la ligoter comme un saucisson, ou quoi que ce soit dans le genre. Si les autres Atan et Ré ne s'en mêlaient pas, bien entendu.
« Nous ne pouvons pas déclarer la guerre aux régentes. Surtout pas avant d'avoir utilisé la coupe. C'est hors de question !»
Ça le resterait même après, d'ailleurs. Et tant pis si les régentes des vents se montraient de plus en plus dominatrices, ou si…
« Si elle m'avait répété ton message, je n'aurais pas compris ce qu'il voulait dire. Je sais que tu ne pouvais pas parler plus clairement. » Mais tu comprends ma position, n'est-ce pas ?
Le regard perdu dans le vague, Avienda chassa quelques mouches un peu trop audacieuses.
J'ai précisé que le message devait être délivré quoi qu'il arrive,
marmonna-t-elle.
Quoi qu'il arrive, que se serait-il passé s'il s'était agi d'un de ceux que vous nommez les rejetés ? Et s'il avait pu traverser le portail avec moi et vous attaquer toutes par surprise ? Ou si…
Avienda tourna soudain vers Elaine un regard plein de détresse.
D'accord, je mordrai la lame de mon couteau, comme dit un de nos proverbes. Mais mon foie risque bien de finir par exploser à cause de tout ce fiel ravalé.
Elaine allait dire à son amie que ravaler sa colère, justement, était la bonne solution, sans que ça l'empêche de nourrir un ressentiment gros comme une maison, pour autant qu'elle le dissimule aux Atan Miré. En gros, c'était ce que voulait dire cette histoire de l'âme et de foi. Mais avant que la fille héritière ait pu parler, la monture grise d'Adéléas arriva soudain à son niveau, sur l'autre flanc de Lyon. À Éboudard, la sœur aux cheveux blancs
avait fait l'acquisition d'une selle fantaisie aux pommeaux et aux trousquins rehaussés d'argent. Alors qu'il émanait d'Adéléas un parfum presque aussi capiteux que celui des fleurs, les mouches la laissaient en paix pour une raison qui dépassait Elaine.
« Désolé, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. »
Adéléas ne semblait pas navré du tout. Et Elaine la soupçonna plutôt d'avoir tendu l'oreille. Du coup, elle se sentit rosir. La conversation sur Rand avait été des plus directes, que ce soit de la part d'Avienda ou de la sienne. Mais ce qu'on disait à sa meilleure amie et ce qu'on entendait d'elle n'était sûrement pas destiné à une étrangère. Avienda parut partager cette analyse. Si elle ne rougit pas, le regard noir dont elle gratifia la sœur marron aurait fait la fierté de Nineveh. Adéléa se contenta d'un sourire passe-partout.
« Elaine,
dit-elle,
tu ferais peut-être mieux de ne pas freiner les ardeurs de ton amie, en ce qui concerne les Atta Almiré. »
Elle regarda alternativement les deux jeunes femmes.
« Oui, laisse-lui donc la bride sur le cou. Leur inspirer une sainte terreur de la lumière devrait être suffisant. Au cas où tu ne t'en serais pas aperçu, elles sont presque terrorisées. En tout cas, elles ont bien plus peur des sauvages, excuse l'expression, Avienda, que des Aes Sedai. Merylil t'aurait bien fait la même suggestion, mais elle a encore les oreilles qui sifflent, après le savon que tu lui as passé. »
Avienda trahissait très rarement ce sentiment. Mais là, elle eut l'air tout aussi surprise qu'Elaine. Se retournant sur sa selle, la fille héritière jeta un coup d'œil perplexe derrière elle. Merylil chevauchait avec Vanden, Karéan et Saraïta, et toutes les quatre évitaient soigneusement de la regarder. Les Atta Almiré étaient juste derrière, toujours sur une seule file. Et les tricoteuses devaient venir avant les bêtes de bas, mais on ne les voyait pas pour le moment. Alors que l'expédition slalomait entre les tronçons de colonnes, une myriade d'oiseaux rouges et verts à longue queue gazouillait à vous en remplir les oreilles.
« Pourquoi ?»
demanda Elaine abruptement. Remuer le panier de crabes, déjà assez secoué comme ça, paraissait stupide. Mais Adéléas ne lui était jamais apparu comme une tête de linotte. De fait, elle fronça les sourcils, surprise. Et ce n'était peut-être pas une ruse. En général, elle pensait que tout le monde voyait les choses comme elle. Cela dit...
« Pourquoi ? Pour rétablir l'équilibre, tiens. Si les Atta Almiré ont l'impression d'avoir besoin de notre protection contre une Aiel, ça peut faire contrepoids face... »
Adéléas marqua une pause, faisant mine de tirer sur le devant de sa jupe d'équitation grise.
« Eh bien, face à d'autres choses. »
Elaine se rembrunit. « D'autres choses ?» Adéléas faisait allusion au marché passé avec le peuple de la mer.
« Tu devrais chevaucher avec les autres, Adéléas. »
La sœur ne fit aucune objection et n'essaya pas d'insister. Inclinant la tête, elle laissa son cheval se faire distancer par ceux des deux jeunes femmes. Et elle ne cessa pas un instant de sourire. Si les Aes Sedai mûres acceptaient que Nineveh et Elaine les dirigent et parlent avec l'autorité des Gwen en guise de soutien, en réalité, rien n'avait changé dès qu'on creusait un peu. Rien du tout, même. Elles se montraient respectueuses et obéissantes, mais, de leur point de vue, Elaine avait reçu son châle à un âge où la plupart des occupantes de la tour portaient encore le blanc des novices, quelques exceptions seulement ayant atteint le niveau d'accepté. De plus, Nineveh et elle s'étaient laissées embarquer dans ce marché. Sûrement pas une preuve de sagesse et de discernement. Pas seulement parce que la coupe des vents reviendrait aux Atta Almiré, mais aussi parce que 20 sœurs seraient obligées d'aller avec elles, obéissant à leurs lois, et de leur enseigner tout ce qu'elles voudraient savoir, sans avoir le droit de partir avant d'avoir été remplacées. Les régentes des vents avaient désormais une invitation permanente à la tour, restant libres de suivre les cours qu'elles voulaient et de s'en aller quand ça leur chantait. Ce seul point arracherait des cris d'indignation aux Hall et à Egwen, alors le reste. Toutes les sœurs présentes dans la colonne étaient persuadées qu'elles se seraient mieux sorties des négociations avec les Atta Almiré. Et elles avaient peut-être raison. Elaine ne le pensait pas, mais elle avait quand même un doute. Elle ne dit rien à Avienda, qui fut la première à rompre le silence.
« Si je peux servir mon honneur et t'aider en même temps, je me fiche que ce soit accessoirement utile à des Aes Sedai. »
Décidément, elle ne parvenait toujours pas à se faire à l'idée qu'Elaine aussi était une sœur. La fille héritière hésita, puis hocha la tête. Il fallait faire quelque chose au sujet des Atta Almiré. Jusque-là, Merylil et les autres avaient fait montre d'une tolérance étonnante. Mais combien de temps cela durerait-il? Et dès qu'elle se concentrerait sur les régentes, Nineveh risquait fort d'exploser. Tant que c'était possible, il fallait arrondir les angles. Mais si les Atta Almiré finissaient par se croire autorisés à regarder les Aes Sedai de haut, les choses tourneraient mal. Malgré tout ce qu'on lui avait enseigné à Kimlin, Elaine découvrait chaque jour que la vie était bien plus complexe qu'elle l'aurait cru. et en particulier depuis qu'elle était entrée pour la première fois à la tour.
« N'en rajoute pas, cela dit. »
souffla-t-elle à Avienda.
« Et sois prudente. Elles sont 20 et tu es seule. Je ne voudrais pas qu'il t'arrive malheur avant que j'aie pu intervenir. »
Avienda eut un sourire de louve. Puis elle arrêta sa jument sur le bas-côté de la piste afin d'attendre les régentes. Hélène jeta de fréquents coups d'œil derrière elle. Mais tout ce qu'elle vit à travers les arbres, ce fut Laïel chevauchant à côté de Corinne et lui parlant sans même la regarder. En tout cas, sans la foudroyer les yeux, même si la régente semblait quelque peu soufflée. Puis Avienda lança son cheval au trot pour rejoindre Hélène, en agitant stupidement ses rênes, car elle ne serait jamais une bonne cavalière. Attendant Rinail, Corinne lui dit quelques mots. Presque aussitôt après, la dirigeante des régentes, d'un ton rageur, envoya Reynine à la tête de la colonne. La cadette des régentes était encore plus ridicule en selle qu'Avienda, faisant mine d'ignorer Laïel et les mouches vertes qui bourdonnaient autour de sa tête, elle parla d'un ton monocorde.
« Elaine Aes Sedai, Rinail d'Incalon étoile bleue, demande que tu sermonnes Laïel. »
Avienda eut un sourire de prédatrice. Reynine devait quand même la voir à la périphérie de son champ de vision, car elle s'empourpra.
« Reynine, dis à Rinail qu'Avienda n'est pas une sœur. Je lui demanderai d'être prudente. »
Un mensonge ? Absolument pas, même si c'était joué sur les mots.
« Mais je ne peux rien lui imposer. »
Cédant à une impulsion, Hélène ajouta.
« Tu sais comment sont les aïels ?»
Le peuple de la mer se faisait une très étrange idée des aïels en réalité. Les yeux écarquillés, Reynine regarda Avienda, qui souriait toujours. Puis elle se décomposa, fit volter sa monture et retourna vers Rinail en rebondissant ridiculement sur sa selle. Avienda eut un gloussement satisfait. Hélène, elle, se demanda si toute opération n'était pas une bévue. Mais à 30 pas de distance, elle vit très bien la réaction furibonde de Rinail quand Reynine lui fit son rapport et capta parfaitement les murmures indignés des autres régentes. Ces femmes n'avaient pas l'air effrayées, mais furieuses. Et elles regardaient maintenant les Aes Sedai avec des yeux brillants de rage. Pas Avienda, mais les sœurs. Quand elles s'en aperçut, Adeleas hocha simplement la tête, et Merylil ne parvint pas tout à fait à cacher un sourire. Au moins, ces deux-là étaient satisfaites. S'il s'était agi du seul incident du voyage, ça aurait déjà suffi à gâter le plaisir de contempler le paysage et les oiseaux. Mais ce n'était même pas le premier. Peu après que la colonne fut sortie de la clairière, les tricoteuses étaient venues voir Hélène, une par une, à l'exception de Kirstian, chargée de maintenir le bouclier qui isolait Hispan de la source. Oui, elles avaient défilé l'une après l'autre avec un sourire timide, hésitant jusqu'à ce qu'Hélène leur ordonne d'agir conformément à leur grand âge. Elles n'avaient formulé aucune exigence et s'étaient montrées trop futées pour demander directement ce qu'on leur avait déjà refusé. Mais elles avaient trouvé un chemin détourné.
« Il m'est venu à l'esprit, »
avait dit Réan d'un ton enjoué,
« que tu pourrais vouloir interroger d'urgence Hispan Sedai. Qui sait ce qu'elle faisait en ville, à part tenter de localiser la remise ?»
Des propos presque nonchalants, mais tenus en jetant de temps en temps un coup d'œil à Hélène pour voir comment elle réagissait.
« Il nous faudra peut-être encore une heure pour atteindre la ferme. Et peut-être même deux. Et tu ne veux sûrement pas gaspiller un temps si précieux. Les herbes de Ninévé ont délié la langue de la prisonnière. Et je parie qu'elle serait loquace face à des sœurs. »
Bien tenté ce coup-là. Le sourire de Réan avait fondu quand Hélène, imperturbable, avait répondu que l'interrogatoire pouvait attendre et attendrait. Ces femmes pensaient-elles vraiment qu'on pouvait questionner quelqu'un en chevauchant au milieu d'une forêt sur des pistes de fortune? Marmonnant entre ses dents, Réan était parti retrouver ses compagnes. Mais l'offensive ne s'était pas arrêtée là.
« Hélène Sedai, désolé de te déranger. »
avait soufflé Chilares peu de temps après, son accent du Mourandi encore perceptible, sur certains mots. Son chapeau de paille vert assorti à ses jupons, Chilares ne portait pas la ceinture rouge d'une guérisseuse. C'était le cas pour la plupart des dirigeantes de la famille. Ivara était joaillère. Eldaz fabriquait des objets laqués pour l'exportation. Chilares vendait des tapis et Réan coordonnait les expéditions fluviales pour de petits marchands. D'autres avaient des occupations très simples. Kirstian tenait un modeste atelier de tissage et Dimana était couturière, mais une couturière à succès. Au cours de leur vie, ces femmes avaient exercé une multitude de métiers et porté beaucoup de noms différents.
« Hispan Sedai paraît être souffrante, »
avait dit Chilares, se tortillant sur sa selle.
« Les herbes agissent peut-être plus violemment que le pensait Nineveh Sedai. S'il arrivait un malheur, ce serait terrible. Avant qu'on ait pu l'interroger, je veux dire. Les sœurs consentiraient-elles à l'examiner? La guérison, tu sais...
Chilares n'était pas entré dans les détails. C'était préférable, quand on avait parmi ses compagnes quelqu'un comme Soumeko. D'un coup d'œil en arrière, Hélène avait vu que la solide tricoteuse était debout sur ses étriers, pour tenter de voir ce qui se passait. S'apercevant qu'elle était grillée, elle s'était laissée retomber sur sa selle. Soumeko, une femme qui en savait plus long sur la guérison que n'importe quelle Aes Sedai, à part Nineveh. Et encore. Hélène avait simplement tendu un index dans son dos. Résignée, Chilares s'était retournée auprès des autres tricoteuses. Mais entre celle de Réan et celle de Chilares, la fille héritière avait reçu la visite de Merylil. Dans le rôle de la femme qui veut simplement bavarder, la sœur grise s'était révélée bien meilleure que la tricoteuse. Et question assurance, il n'y avait pas de comparaison possible. La teneur du discours, en revanche...
« Hélène, je me demande jusqu'à quel point on peut se fier à ces femmes. »
Tout ça dit d'un ton dégoûté, en époustant d'une main gantée le devant de sa jupe d'équitation.
« Elles affirment ne pas accepter parmi elles de naturel. Mais Réan pourrait bien en être une, même si elle prétend avoir raté l'épreuve d'accepter. Idem pour Soumeko et pour Kirstian. »
En prononçant ce nom, Merylil avait pincé les narines, comme si elle voulait bloquer une odeur désagréable.
« Tu as dû remarquer comment elle bondit chaque fois qu'on mentionne la tour blanche devant elle. Elle ne sait rien de notre fief. En tout cas, pas plus que ce qu'elle a appris en parlant avec quelqu'un qui y est allé. Et qui s'est fait éjecter pour de bon. »
Merylil s'était fendue d'un soupir, comme si elle regrettait de devoir dire la suite. Oui, elle était vraiment bonne.
Ah, as-tu envisagé que ces femmes puissent mentir sur d'autres sujets? Et si elles étaient des suppôts de ténèbres? Ou manipulées par des suppôts? En tout cas, elles ne me semblent guère dignes de confiance. Je crois à leur histoire de ferme. Que ce soit un lieu de retraite ou pas, sinon, tu n'aurais pas été d'accord avec cette expédition. Mais il ne m'étonnerait pas de découvrir quelques masures décrépites et une nichée de naturel. Enfin, peut-être pas des masures décrépites, parce que ces femmes ont des moyens. Mais l'idée générale est la même. On ne peut pas se fier à elles.
Hélène avait senti sa colère monter dès que les intentions de Merylil lui étaient apparues. Au fil des minutes, son humeur ne s'était pas arrangée. Toutes ces circonlocutions pour insinuer des choses que Merylil ne croyait pas elle-même? Des suppôts de ténèbres? Les tricoteuses avaient combattu les suppôts, l'une d'entre elles y laissant la vie. Sans Soumeko et Yane, Nineveh aurait pu être morte, Ispan restant libre comme l'air. Si Merylil s'en prenait ainsi aux tricoteuses, ce n'était pas parce qu'elle les soupçonnait vraiment d'être liée aux ténèbres. En revanche, ternir leur réputation pouvait conduire à ce qu'on leur retire la surveillance d'Ispan. Hélène avait écrasé une grosse mouche sur la couleur de lionne, le bruit faisant sursauter son interlocutrice.
« Comment oses-tu? Elles ont affronté Ispan et Falion dans le Rahad, sans parler du Golam et d'une bande de tueurs. Toi, tu n'étais pas là !»
Un coup bas, il fallait l'admettre. Merylil et les autres étaient restés en arrière parce que des Aes Sedai, si ostensibles surtout, auraient trop attiré l'attention dans le Rahad. Mais que ce soit injuste ou pas, Elaine était trop furieuse pour se retenir.
« Ne viens plus jamais me dire des choses pareilles. Jamais, tu m'entends? Pas sans des preuves en acier trempé. Sinon, je t'infligerai une pénitence qui te fera sortir les yeux de la tête. »
Même si elle commandait la sœur, Elaine n'avait en aucun cas l'autorité pour la punir. Mais ce n'était qu'un détail.
« Tu rentreras à pied à Tarvalon, avec simplement de l'eau et du pain sec pendant tout le voyage. Tu seras sous leur surveillance. » Et je leur ordonnerai de te gifler si tu oses seulement hausser un sourcil. »
Hélène s'était soudain avisée qu'elle braillait, assez fort pour occulter les cris des oiseaux. Inspirant à fond, elle avait tenté de se calmer. Pour beugler, elle n'avait pas le timbre requis, et dans les aigus, sa voix était ridicule. Bien entendu, tous les regards s'étaient braqués sur elle, la plupart pleins de surprise. Seule Avienda avait paru approuver sa demi-sœur. Mais elle l'aurait soutenue, même si elle l'avait vu poignarder à mort Merylil. Avienda restait aux côtés de ses amis, quoi qu'il arrive.
« Ce ne sont pas des paroles en l'air !»
avait conclu Hélène, devant une Merylil de plus en plus décomposée. Non, il ne s'agissait pas de menaces creuses. Il ne fallait pas que de telles rumeurs se répandent. Le cas échéant, la punition serait appliquée, même si les tricoteuses risquaient de s'évanouir les unes après les autres. Après cet éclat, Hélène avait espéré en avoir fini avec les ennuis. Au fond, ça aurait pu être le cas. Mais Chilares était monté à l'assaut, et après sa déroute, Saraïta l'avait remplacée. Elle aussi avait une raison de se méfier des tricoteuses. Le rage. Kirstian, elle-même, prétendait être plus âgée que n'importe quelle Aes Sedai. Et Rehan, sans être la doyenne de la famille, avait une bonne centaine d'années de plus que sa compagne. Son titre de sœur aînée la désignait bien comme le plus vieux membre de la famille des Boudards. Mais des femmes encore plus âgées se cachaient un peu partout, faisant tout leur possible pour ne pas attirer l'attention des gens. Selon Saraïta, cette histoire d'âge ne tenait pas debout. Cette fois, Elaine avait pris garde à ne pas crier.
« Au bout du compte, nous découvrirons la vérité !»
avait-elle dit à Saraïta, non qu'elle eût mis en doute la parole des tricoteuses. Sans avoir l'air intemporel comme les sœurs, ne faisait pas du tout leur âge véritable, c'était bien pour une raison. Et il faudrait la connaître un jour. Même en se creusant la tête, Elaine ne trouvait aucune hypothèse valable. Pourtant, la réponse devait être évidente. Mais pas moyen de mettre le doigt dessus.
« Au bout du compte, ai-je dit, Saraïta ?»
avait-elle ajouté pour couper le sifflet à la sœur marron, qui semblait vouloir insister.
« Et maintenant, retire-toi »
La sœur avait obéi, déconcertée. 10 minutes plus tard, Cybella était passée à l'attaque. Chaque fois qu'une tricoteuse était venue, avec une histoire tordue visant à confier Hispan aux sœurs, une Aes Sedai l'avait suivie pour entonner la même chanson. En revanche, Merylil ne s'était plus montrée. Encore sous le choc, elle sursautait chaque fois qu'Elaine posait les yeux sur elle. Au fond, d'ailleurs, aucune autre sœur n'avait plus osé s'en prendre si directement à la famille. Par exemple, Vanden avait commencé par évoquer les Atan Nyeré, proposant plusieurs façons d'atténuer les effets du fâcheux marché, et insistant sur le fait qu'il fallait absolument les atténuer. Un discours très objectif, sans jamais mettre quiconque en accusation du geste ou de la parole. Bien entendu, c'était inutile, car le sujet en lui-même impliquait l'existence de responsables qui méritaient un blâme. La tour blanche, avait développé la sœur, ne maintenait pas son influence sur le monde par la force des armes, ni par la persuasion, et pas davantage par les complots et les intrigues. Encore que sur ces deux derniers points, Vanden était passé très vite. Non, si la tour contrôlait ou du moins orientait le cours des choses, c'était parce qu'on la voyait universellement comme une instance supérieure et séparée du commun des mortels, comme les rois et les reines, mais dans une plus grande mesure. Pour ça, il fallait que chaque Aes Sedai soit considéré de la même façon, un être mystérieux et différent de tous les autres, un corps taillé dans une autre chair. Depuis toujours, les sœurs qui ne se satisfaisaient pas de ce critère, et elles se révélaient rares, étaient autant que possible gardées à l'écart de la vie publique. Elaine avait eu besoin d'un moment pour s'aviser que la conversation, à l'origine sur les Atan Nyeré, avait dérivé sur un terrain glissant. Une autre chair, des êtres à part. Quelqu'un qui répondait à cette définition ne pouvait pas être attaché en travers d'une selle avec une cagoule sur la tête, et surtout pas devant les yeux de profanes, entendre par là de non-Aes Sedai. En clair, les sœurs étaient toutes disposées à traiter Hispan plus durement que le feraient jamais les tricoteuses, mais pas en public. Exposé de but en blanc, cet argument aurait pu avoir du poids. Après toutes ces circonlocutions, Elaine avait renvoyé Vanden sans plus de ménagement que les autres. Suite à un bref passage de Cybella, effarée parce que les tricoteuses ne comprenaient pas ce que marmonnait Hispan, Elaine l'avait congédié en soulignant que les sœurs ne seraient pas plus qualifiées pour interpréter des borborygmes, Adélea s'était, à son tour, venue tenter sa chance. Ce manège avait continué, et même en sachant où voulaient en venir les sœurs, Elaine avait parfois eu du mal à saisir le rapport, de prime abord, entre leur bavardage et Hispan. Puis Carréane avait déboulé, lançant son offensive en affirmant que les rochers étaient bien des orteils. Ils appartenaient, disait-on, à la statue haute de plus de 200 pieds d'une reine guerrière qui
« Hispan restera avec les tricoteuses !»
avait coupé Elaine, sans attendre de voir comment Carréane en arriverait au sujet qui motivait son intervention.
« Pour le reste, tu devrais me laisser.
Sauf si tu as vraiment l'intention de m'expliquer pourquoi le peuple de Chiota a érigé une telle statue. »
Selon la sœur verte, d'antiques textes affirmaient que le personnage géant portait seulement quelques rares pièces d'armure. Une reine ?
Pas d'explication ? Dans ce cas, ça ne te dérange pas. J'aimerais parler en privé avec Avienda. Et merci beaucoup.
Même une certaine rudesse ne suffit pas à décourager les sœurs. Au bout d'un moment, Elaine s'était même étonnée que la domestique de Merylil ne vienne pas tenter l'aventure. Tout ça ne se serait pas passé si Ninévé avait joué son rôle. Parce que l'ancienne sage-dame, ça ne faisait aucun doute, aurait neutralisé sans souci les tricoteuses aussi bien que les Aes Sedai. Pour neutraliser les gens, il n'y avait pas mieux qu'elle. Hélas, depuis que la colonne avait quitté la clairière, Nineveh ne s'était pas éloignée d'un pouce de son cher Lan. Et comme les champions se partageaient l'avant-garde et la surveillance des flancs, elle n'avait pas eu l'occasion de voir quel calvaire vivait son ami. Birgit elle-même avait passé le plus clair de son temps loin de la fille héritière.
« Personne ne t'ennuie ?»
demanda Nineveh à Elaine lorsque Lan, qu'elle suivait évidemment comme son ombre, vint jeter un coup d'œil à la colonne. Elle ponctua sa question d'un regard noir pour les Hatta admirer.
« Tout va pour le mieux, alors ?»
Avant que la fille héritière ait pu répondre, son amie avait talonné sa jument bedonnante et, tenant son chapeau d'une main, s'était lancée à la poursuite de Lan, déjà reparti jouer son rôle d'éclaireur. De toute façon, à ce moment-là, Merylil venait de succéder à Rhéan, et le débat paraissait clos. Quand Nineveh revint, Elaine ayant subi les assauts répétés des tricoteuses et des sœurs, Avienda avait tensé Corinne, et les régentes des vents fulminaient. Mais quand son amie eut fini de lui expliquer tout ça, l'ancienne sage-dame balaya simplement la colonne du regard en fronçant les sourcils. Comme de juste, à cet instant précis, chaque femme était à sa place dans son groupe, et tout paraissait paisible. Les Hatta admirés tiraient bien un peu la tête. Mais les tricoteuses se tenaient tranquilles, et les sœurs semblaient aussi calmes et innocentes qu'une bande de novices sous le regard de leur maîtresse. Elaine eut envie de hurler.
« Je suis sûr que tu peux te sortir de tout ça. »
lâcha Nineveh.
« Après toutes ces leçons reçues pour devenir une reine, rien ne peut être plus dur que... Oh, maudit bonhomme ! Le voilà qui repart. Bon courage !»
Sur ces mots, l'ancienne sage-dame repartit, forçant la pauvre jument obèse à galoper comme un cheval de guerre. Avienda choisit cet instant précis pour revenir à Rand et décrire la façon dont il l'embrassait dans le cou, une tendre attention qu'il semblait adorer, et que Layel, soit dit en passant, appréciait beaucoup aussi. Elaine n'avait pas détesté, quand elle avait eu droit à cette démonstration d'affection, loin de là même. Mais bien qu'habituée aux conversations de ce genre, non sans difficulté elle s'y était faite, elle n'eut pas envie de continuer sur cette voie, parce qu'elle était furieuse contre Rand. C'était injuste, sans doute. Mais s'il n'avait pas existé, elle aurait pu dire à Nineveh de cesser de traiter Lan comme un enfant qui sait à peine marcher et de s'occuper plutôt d'accomplir sa mission. Sans trop se forcer, elle aurait pu aussi accuser le jeune homme d'être la source du comportement agaçant des tricoteuses, de l'arrogance des autres Aes Sedai et du mépris hautain des Hatta admirés.
« Entre autres, »
disait souvent Lini,
« les hommes sont là pour porter le chapeau. Ils le méritent bien, en général. Même si tu ne sais pas exactement pourquoi. »
Injuste ou pas, Elaine aurait aimé avoir Rand sous la main assez longtemps pour lui frictionner les oreilles. Puis pour l'embrasser, le laisser lui poser un baiser dans le cou et...
« Il écoute les bons conseils, même s'il n'aime pas qu'on lui en donne. »
dit soudain Elaine, histoire de détourner la conversation. Malgré tous ses beaux discours sur le taux, Avienda ignorait la honte. Et la fille héritière était en train d'oublier jusqu'au sens du mot « pudeur ».
Mais quand j'essayais de le pousser dans une direction, il résistait des quatre fers, même si j'avais raison. Il est pareil avec toi ?
Avienda regarda sa presque sœur et parut comprendre pourquoi elle sautait ainsi du coq à l'âne. Elaine ne fut pas bien sûre d'aimer ça, mais en tout cas, il ne fut plus question de rendre et de baiser. Pendant un temps, en tout cas. Avienda avait une certaine connaissance des hommes. À l'époque où elle était une promise, elle avait voyagé avec des guerriers, se battant à leur côté. Son seul objectif étant de devenir une parfaite Fardari Ismail, elle avait cependant des lacunes. Même avec ses poupées, enfant, elle jouait à manier des lances et à guerroyer. En revanche, elle n'avait jamais eu d'amoureux, ne comprenait pas vraiment à quoi ça pouvait servir, et continuait à s'étonner de se sentir si bizarre quand Rand posait les yeux sur elle. Pareillement, elle ignorait une bonne centaine de petites choses qu'Elaine avait comprises la première fois qu'un garçon l'avait regardée, eh bien, pas comme il regardait les autres garçons, tout simplement. Avienda espérait que sa presque sœur lui apprendrait tout ça. Elaine s'y efforçait. Ça n'aurait même pas été très difficile si Rand n'avait pas immanquablement été l'exemple qui s'imposait. S'il avait été là, elle lui aurait vraiment frictionné les oreilles, avant de l'embrasser, puis de le maltraiter de nouveau. Une chevauchée agréable ? Non, un cauchemar. Nineveh revint plusieurs fois, la dernière pour annoncer que la ferme était juste derrière une colline ronde assez basse, qui semblait prête à s'écrouler sur un côté. L'estimation de Rhéan était vraiment pessimiste. Moins de 2 heures s'étaient écoulées depuis le départ.
« Nous y serons très bientôt, »
dit Nineveh, sans remarquer le regard noir que lui jetait la fille héritière.
« Lan, fais passer Réan en tête de la colonne, s'il te plaît. Il vaut mieux que ces femmes voient un visage familier. »
Le champion s'éloigna au trot. Se tournant sur sa selle, Ninevé balaya du regard les Aes Sedai.
« N'allez surtout pas les effrayer à présent. Pas un mot avant que nous ayons pu leur expliquer le pourquoi et le comment. Et remontez vos capuches, pour cacher vos visages lisses et sans âge. »
Sans attendre de réponse, elle hocha la tête, très satisfaite.
« Parfait. Tout est au point. Elaine, je ne saisis vraiment pas de quoi tu te plaignais. Tout le monde obéit docilement à ce que je vois. »
Elaine serra les dents. Elle avait hâte d'être à Kaemlyn. Leur destination, une fois qu'elles en auraient terminé ici. Là-bas, une mission longtemps négligée l'attendait. Convaincre les maisons que le trône du lion lui revenait de droit, malgré sa longue absence. Et mater une rivale ou deux. Si elle avait été présente au moment de la disparition de sa mère, sa mort en réalité, personne n'aurait osé se dresser contre elle. Mais l'histoire du royaume d'Andorre indiquait qu'il y aurait des prétendantes à présent. Peut-être, mais s'en débarrasser semblait plus facile que ce qu'elle était en train de vivre.